présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. 7 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont mortes en Italie. 11 villes du Nord sont confinées. Reportage de Bruce de Galzin à Piacenza, près de la zone rouge. L'augmentation des cas liés au Covid-19 rend les marchés fébriles. Nous ferons le point avec Marie Vienno. Des femmes stérilisées de force dans des hôpitaux parce qu'elles étaient porteuses du VIH. Ça s'est passé en Afrique du Sud. La Commission pour l'égalité des sexes a recensé 48 cas de stérilisation forcée. Soupçonnés d'emploi fictif, François Fillon et son épouse Pénélope ont fait un bref passage au tribunal correctionnel de Paris. Leur procès est renvoyé en raison de la grève des avocats, récit d'Antoine Marette. Des premiers cas au Koweït, à Bahreïn et Oman, l'épidémie de pneumonie virale Covid-19 se propage de plus en plus. Le monde doit se préparer à une éventuelle pandémie, prévient l'Organisation mondiale de la santé. En Europe, tous les yeux sont rivés sur l'Italie, où le virus a atteint plus de 220 personnes. 7 décès ont été annoncés. Les cas sont pour l'instant concentrés dans le nord du pays. Et pour ralentir le rythme des nouvelles contaminations, les autorités italiennes ont mis en œuvre des mesures exceptionnelles, comme le semi-confinement de quelques 52 000 habitants d'une dizaine de villes du Nord. Bruce de Galzin, vous vous êtes rendu à Piacenza, la plus grande ville à proximité de la zone rouge, et vous avez pu le constater, des mesures de précaution sont prises un peu partout.
Il n'y a qu'une quinzaine de kilomètres entre Piacenza et le cœur de la zone rouge. Les habitants s'inquiètent de cette proximité et d'un éventuel confinement, au point de dévaliser les supermarchés. Adriana va y aller elle aussi.
On
a l'impression d'être retourné en temps de guerre, quand les gens faisaient des stocks pour ne pas rester sans vivre de première nécessité. Moi je ne l'ai pas encore fait, mais là maintenant je crois que je vais aller faire quelques réserves. On ne sait jamais.
La ville est calme pourtant, beaucoup de commerces sont fermés. Marcello, lui, ne sait pas s'il pourra aller travailler.
On ne sait pas à qui confier nos enfants. Tout est fermé, donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, le père et la mère travaillent. Et s'il n'y a pas les grands-parents, sans crèche et sans école, on ne peut pas aller travailler.
Ceux qui travaillent sont, eux, contrôlés. C'est en tout cas ce qui est arrivé à Claudio, 52 ans, ouvrier dans une usine d'électromécanique de 250 salariés.
Nous mettons des masques, c'est normal. Et depuis ce matin, ils nous prennent la température avant de rentrer, et si tu as plus de 37,2, ils te renvoient à la maison et tu dois prévenir ton médecin de famille.
Et les autorités insistent, il ne faut pas se rendre aux urgences de l'hôpital de Piacenza, sauf en cas d'extrême nécessité.
La France émet une série de recommandations pour les personnes revenant de Lombardie et de Vénétie. Il leur est demandé d'éviter toute sortie non indispensable et les enfants de retour de ces régions ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée. Ce matin, des responsables politiques de droite et d'extrême droite avaient réclamé des contrôles aux frontières françaises avec l'Italie. L'inquiétude monte dans l'Hexagone, en témoigne le blocage d'un bus ce matin à Lyon en raison d'une suspicion de coronavirus à bord. Ce bus en provenance de Milan et passé par Turin et Grenoble a été mis à l'écart dans la gare routière de Perrache et ses passagers confinés à l'intérieur pendant plusieurs heures. L'un des chauffeurs avait été pris d'une forte toux et à Paris, un commissariat du 13e arrondissement a été fermé, le temps de vérifier que le malaise d'une plaignante chinoise n'était pas lié au coronavirus. L'épidémie est partie de Chine, elle est à présent en recul dans le pays, mais Pékin continue de prendre chaque jour de nouvelles mesures. C'est ainsi que la session annuelle du Parlement chinois a été reportée sine die, un événement dans la vie politique du pays. La Chine a par ailleurs décidé d'interdire complètement et immédiatement le commerce et la consommation d'animaux sauvages. On suppose en effet que l'épidémie de pneumonie virale est partie d'un marché où étaient justement vendus des animaux sauvages destinés à être consommés. La multiplication de cas de coronavirus crée la panique sur les marchés et à l'image des places asiatiques et européennes, la bourse de New York s'est effondrée à l'ouverture. Le président américain se voit dérouler le tapis rouge en Inde. Donald Trump effectue une visite d'État de 2 jours dans ce pays qu'il a régulièrement accusé d'être trop protectionniste. Les discussions commerciales devraient être épineuses, mais les ventes militaires importantes. Et avant d'aborder demain le fond des dossiers, le président américain a été reçu avec faste par le premier ministre indien Narendra Modi dans l'État du Gujarat. Le récit de Sébastien Farcy.
La grande ville d'Ahmedabad au Gujarat a revêtu ses habits de carnaval pour la venue de Donald Trump. Des centaines d'artistes dansent ou jouent de la musique le long des 20 kilomètres traversés par son convoi avant que le président américain n'arrive dans l'énorme stade de cricket de la ville où les deux dirigeants sont accueillis comme des stars de rock par plus de 110 000 personnes. Après une énième embrassade, Narendra Modi s'adresse à son ami Trump.
Nous partageons des valeurs et des idéaux fondamentaux. Nos peuples ont le même esprit d'entreprise et d'innovation.
Le président américain réplique sur le même ton en faisant l'éloge du premier ministre indien.
L'Amérique aime et respecte l'Inde. Nous nous souviendrons à jamais de votre hospitalité. Le premier ministre Modi a formidablement réussi à s'élever depuis un milieu modeste. Il est la preuve vivante qu'avec dévotion et travail, les Indiens peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent.
Les deux hommes sont coutumiers de ces bains de foule dans des stades. Il y a 5 mois, ils ont fait un show similaire à Houston, au Texas. Cette visite d'État de 2 jours ne devrait pas aboutir à la signature d'accords commerciaux importants, mais pourrait rapprocher 2 dirigeants nationalistes et protectionnistes. Elle permet également aux États-Unis de renforcer les liens stratégiques et militaires avec le plus important rival de la Chine dans la région.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI en Inde. Harvey Weinstein est reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Le producteur américain a été jugé par un tribunal pénal de Manhattan et visé par 5 chefs d'accusation. Il est acquitté du chef d'accusation de viol au premier degré et d'agression sexuelle avec violence qui lui faisait risquer la perpétuité. On ne connaît pas encore la peine à laquelle il sera condamné. Il risque en tout cas 25 ans de prison. Une 50aine de Sud-Africaines porteuses du VIH ont été stérilisées de force dans des hôpitaux du pays. La Commission pour l'égalité des sexes d'Afrique du Sud vient de dévoiler les conclusions d'une enquête. Elle a été menée après le dépôt de plainte en 2015 d'organisation des droits de la femme. La Commission reconnaît aujourd'hui officiellement que ces traitements constituent de graves discriminations et violations des droits humains, Claire Bargelès.
Vous, les gens porteurs du VIH, vous ne vous posez pas de questions quand vous faites des bébés. C'est ce qu'une des plaignantes s'est entendue dire par une infirmière avant d'être poussée à se faire stériliser, comme elle le raconte dans un témoignage sous serment. Tous les 48 cas rapportés concernent des femmes noires, enceintes au moment des faits, et en grande majorité séropositives. Le rapport raconte comment, au moment de leur accouchement par césarienne, alors que certaines d'entre elles avaient déjà commencé le travail et étaient en souffrance, elles ont été poussées à signer un formulaire de consentement pour permettre aux hôpitaux de les stériliser. Selon les cas, quelques-unes ont été menacées de ne pas recevoir de soins médicaux en cas de refus, d'autres n'avaient pas pleinement conscience de ce à quoi elles s'engageaient en signant. La commission indique que beaucoup de ces femmes souffrent aujourd'hui de dépression et certaines ont été abandonnées par leurs partenaires faute de pouvoir avoir d'autres enfants. Ces décisions prises par le personnel de santé se concentrent dans les hôpitaux autour de Johannesburg et Durban. La commission recommande un changement dans la loi pour que tout acte de stérilisation soit désormais pleinement consenti. Le ministère de la Santé, qui a reçu le rapport, n'a pas encore commenté.
Claire Bargelès à Johannesburg. La justice britannique examine la demande d'extradition de Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks est réclamé par les États-Unis qui veulent le juger pour piratage informatique et espionnage. Vous avez suivi l'audience, Antoine Gignot.
Pour les avocats de l'administration américaine, pas question de se placer sur le terrain de la liberté de la presse. Julian Assange, disent-ils, n'est pas poursuivi parce qu'il a divulgué des informations embarrassantes ou gênantes pour le gouvernement des États-Unis. Il est mis en cause comme simple justiciable parce qu'il a violé la loi en contribuant à pirater des informations du ministère de la Défense et parce qu'il a mis en danger des hommes et des femmes. Lorsqu'en 2010 et en 2011, le fondateur de Wikileaks a publié en intégralité les 750 000 messages et documents diplomatiques, il n'a pas masqué les noms des informateurs de l'armée, il les a donc délibérément mis en danger. Démenti immédiat du côté de la défense, il n'y a pas l'ombre d'un doute, Julian Assange menait des activités journalistiques, il a publié des informations d'intérêt général, explique son avocat, qui égrène ensuite une liste d'arguments et de vices de procédure destinés à éviter l'extradition, l'intrusion de la police britannique à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur, qui juridiquement n'aurait pas dû avoir lieu, les accusations de piratage informatique qui ont été rajoutées au dossier initial, et il conclut, s'il devait être emprisonné aux États-Unis, Assange serait probablement placé à l'isolement. C'est inacceptable. Julian Assange, lui, reste calme, assis, avec une veste grise, un sweatshirt et des lunettes pour lire. Il fait juste remarquer le vacarme qui l'empêche de bien entendre les discussions. À l'extérieur, plusieurs dizaines de ses partisans manifestent pour demander sa libération.
Alors qu'une partie de l'Allemagne célèbre le lundi des roses, une voiture a foncé dans un défilé de carnaval à Volksmarsen, dans le centre du pays. Un acte volontaire qui a fait de nombreux blessés et qui intervient dans un contexte de forte tension après la double fusillade raciste qui a fait 9 morts à Hanau. Qu'est-ce que vous savez exactement, Ludovic Piétenu?
Eh bien, plus de 30 blessés selon un dernier bilan, dont 7 plus grièvement soignés directement sur place. Et parmi tous ces blessés, Aurélie, beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés. Le chauffeur est un Allemand de 29 ans de la région. Il a été arrêté immédiatement. Il ne serait pas en état, dit la police, pour être interrogé rapidement. Sur des vidéos et photos qui circulent, on peut voir la voiture, une Mercedes Break, à cheval sur un trottoir. Les airbags à l'avant sont déclenchés. Les débris, une petite carriole pour enfants notamment, jonchent le sol. Des témoins racontent que la voiture a franchi un cordon de sécurité installé le long du défilé, et qu'elle a encore parcouru 30 mètres après avoir percuté les premiers spectateurs. La police parle d'un acte délibéré dans cette petite ville de 7000 habitants. Il était 14h30. Cette foule joyeuse attendait le défilé du carnaval. Vous l'avez dit, une tradition très vive en ce lundi des roses, tradition très vive en Allemagne de l'Ouest et dans cette région de la Hesse, la même où s'est produit il y a 5 jours l'attaque raciste de Hanau. Évidemment, cet acte est dans toutes les têtes alors qu'ont eu lieu aujourd'hui les obsèques de plusieurs victimes.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Culture à Berlin. Lundi noir pour la bourse de Francfort. Comme pour d'autres places européennes, le DAX chute de plus de 4%. Tout cela suite au regain d'inquiétude face à l'épidémie de coronavirus, Marie Vienno.
Oui, Londres, Zurich, Madrid, la chute des marchés boursiers est générale en Europe, la plus forte étant localisée bien sûr à la bourse de Milan, moins 5,75%. En France, le CAC 40 a fermé en baisse de 3,94%. Retrouve en fait le niveau qu'il avait début décembre. Les plus fortes baisses concernent ST Microelectronics, le fabricant de semi-conducteurs, PSA et Renault. Aux États-Unis aussi, les indices phares américains Dow Jones et Nasdaq accusent respectivement une baisse de 2,85% et 3,5% pour le moment. C'est la première fois depuis 8 mois que la baisse est si prononcée aux États-Unis, mais comme ces indices n'avaient fait que grimper depuis 3 ans, cette chute est tout de même amortie. Elle est en revanche inquiétante pour les entreprises prises dont l'action recule le plus, typiquement les compagnies aériennes et les entreprises dont la chaîne de production est la plus imbriquée avec la Chine, notamment Apple. Alors la nouveauté pour les petits ou grands investisseurs, c'est bien sûr la confirmation que le virus s'étend et tue bien au-delà de la Chine et que ses conséquences économiques vont sans doute s'étendre géographiquement et durer. Au total, une trentaine de pays sont touchés par le coronavirus dorénavant. Ce week-end, la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a estimé lors d'une réunion des pays du G20 que le coronavirus mettait en péril la reprise de l'économie mondiale déjà fragile. Le secrétaire d'État américain aux finances, Steve Mnuchin, a lui dit que les banques centrales devraient déjà réfléchir à de possibles réponses si besoin. Le problème, c'est que les banquiers centraux, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe ou au Japon, soutiennent déjà massivement l'économie et que les marchés ne savent donc pas quoi anticiper de leur part, ce qui rajoute encore à leur inquiétude.
Marie Vienno. Le procès de François Fillon, de son épouse Pénélope et de son ancien suppléant Marc Joulot est suspendu. Tous les trois comparaissent dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon, affaire qui a entraîné le retrait de la vie politique de François Fillon. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendu aujourd'hui au Palais de justice de Paris pour suivre l'audience, mais les débats sont reportés à après-demain, Antoine.
Effectivement, pas de lien avec l'affaire qui nous intéresse. Les avocats de la Défense demandaient le report de l'audience en signe de soutien au mouvement des avocats contre la réforme de leur régime autonome de retraite. Dès le début de la matinée d'ailleurs, plusieurs dizaines d'entre eux bloquaient les entrées du palais de justice de façon plutôt symbolique, car à partir de midi, les blocages ont pris fin. Une question demeurait, les époux Fillon allaient-ils assister à cette première journée d'audience? Et effectivement, on a vu, peu après 13h, Pénélope et François Fillon pénétraient dans la salle d'audience. Ils ont pris place à côté de l'autre prévenu de cette affaire, l'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, Marc Joulot. Sitôt ouverte, le tribunal a suspendu la séance. Le tout n'aura duré qu'une dizaine de minutes. Le procès reprendra donc mercredi. Il commencera avec des questions de procédure soulevées par la défense avant d'aborder le fond du dossier. Le tribunal dispose pour cela d'un peu moins de 3 semaines. Les 3 prévenus encourent 10 ans de prison, sans compter des amendes et des peines d'inéligibilité.
Antoine Marette, un fait notable aujourd'hui au 8e jour de l'examen de la réforme des retraites. L'Assemblée a adopté le premier des 65 articles du texte. À 18h20, les invités du temps du débat parleront de la formation agricole en direct du Salon de l'Agriculture, le salon où une centaine de militants de l'association Les Amis de la Terre et de la Confédération Paysanne ont envahi le stand du ministère de l'Agriculture. Ils sont venus décerner au salon le prix Pinocchio 2020 du greenwashing pour souligner le fossé entre l'image vertueuse que certaines multinationales veulent se donner et la réalité de leurs pratiques. Un prix décerné par 13 000 citoyens. Les trois finalistes étaient le groupe laitier français Lactalis, dans la catégorie « Se faire du blé avec les produits laitiers », le groupe français Bigard, dans la catégorie « La face cachée de ton steak » et le producteur norvégien d'engrais chimiques Yara, qui s'est vu décerner ce prix Pinocchio, Véronique Reberotte.
Oui, dans la catégorie « Les engrais chimiques », c'est magique, donc le prix Pinocchio a été attribué à la multinationale norvégienne Yara, peu connue du grand public. 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires pourtant en 2018, assurément le meilleur du pire de ce qui se fait en agriculture selon Anne-Laure Sablé de l'ONG Les Amis de la Terre.
Yara se vante par exemple de nourrir le monde. Donc c'est une communication, c'est vrai, qui est très intéressante et je vous invite à aller la voir sur le site prixpinocchio.org, puisqu'effectivement la phrase d'accroche de Yara est de dire que les engrais minéraux, donc les engrais chimiques de synthèse, sont l'invention qui a sauvé le plus de vies au monde. Alors qu'aujourd'hui on sait très bien que les engrais synthétiques polluent un certain nombre de bassins. Aujourd'hui Saint-Nazaire, Bordeaux, Le Havre sont touchés par des pollutions de la part de ces entreprises-là. Et donc c'est pas du tout une invention qui aujourd'hui a sauvé le plus de vies au monde. Au contraire, elle a accéléré l'industrialisation de l'agriculture et il est tout à fait possible aujourd'hui de produire avec des engrais dits organiques ou des légumineuses qui viennent remplacer ces engrais chimiques de synthèse.
Les prises de parole ont eu lieu sur le stand donc du ministère de l'Agriculture, envahi par une centaine de manifestants. Ils déploient donc une banderole sur laquelle on peut lire « Citoyens, citoyennes, reprenons la main ». Ils dénoncent aussi les aides octroyées à ces grands groupes de l'agro-business. Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne.
Pour nous, très clairement, entre le stand du ministère de l'Agriculture et l'agro-business, il y a des liens. Si aujourd'hui, Yara, Lactalis et Bigard sont des acteurs majeurs de l'agro-business, c'est aussi parce qu'ils ont des politiques publiques qui leur permettent. Je vais prendre l'exemple de Lactalis. Lactalis, l'an dernier, récolte 25 millions d'euros de la politique agricole commune au travers du stockage de poudre de lait. C'est-à-dire que les politiques européennes encouragent les paysannes et les paysans à produire plus en dérégulant les marchés laitiers. Donc, permettent à Lactalis d'avoir du lait collecté à moins cher par cette dérégulation. Et vu qu'il y a trop de stocks de lait, on redonne encore de l'argent à Lactalis pour stocker cette poudre de lait. Donc, il est gagnant sur tous les tableaux.
Et la multinationale norvégienne, donc Yara, qui a gagné ce prix Pinocchio 2020, compte 4 sites industriels en France, on l'a entendu, notamment au Havre et à Bordeaux, mais aucun stand au Salon de l'Agriculture.
Véronique Reberotte. Payer ses amendes, ses impôts et certaines factures, ça peut se faire à partir d'aujourd'hui chez le buraliste, du moins dans 10 départements pilotes. Yvelines, Vaucluse, Haute-Saône, Corrèze ou Côte d'Armor se lancent dans cette expérimentation. Si elle est concluante, le déploiement se fera progressivement pour une généralisation au 1er juillet prochain. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Des buralistes équipés de terminaux de la Française des Jeux ont été sélectionnés par la Direction des impôts au terme d'un appel d'offres. Ils sont très partants pour rendre ce service.
Oui, à ce stade, plus de 6000 se sont portés candidats, bien au-delà des prévisions de la Direction des finances publiques qui attendait entre 4000 et 4500 candidatures. Les buralistes concernés pourront donc encaisser des factures, vous le disiez, cantines, crèches, hôpitaux, payées en carte bleue ou en liquide, dans la limite de 300 euros pour ce qui est des paiements en espèces. Et pour les impôts, le plafond est de 300 euros, quel que soit le mode de paiement. Un relais de croissance bienvenu, en tout cas, dans un contexte de baisse des ventes de tabac, explique Jean-François Vigouroux, président des buralistes des Yvelines.
Oui, il y a moins de fumeurs. Il y a aussi beaucoup moins de gens qui achètent leur tabac dans les bureaux de tabac. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire voir aux gens que le buraliste n'est pas simplement là pour vendre du tabac, mais il a plusieurs casquettes. Parce que quelqu'un qui rentre chez nous, qui va voir que « Ah tiens, on fait du rechargement de passe Navigo, on fait le compte en banque nickel, on fait des timbres fiscaux pour tout ce qui est les passeports, les carnets d'identité et même les billets SNCF, maintenant, vont pouvoir être vendus chez les buralistes. » Pour vous dire comme quoi, on est vraiment multicarte.
Mais certains syndicats de la DGFiP y voient un nouveau désengagement de l'État. Pour Solidaires Finances Publiques, ce mouvement s'inscrit, dit-il, dans la braderie des services publics orchestrée par le gouvernement. De son côté, la direction des impôts défend une réforme source d'économie permettant aux agents de se recentrer sur leur mission de conseil et de fiscalité.
Anne-Laure Jumet, le temps va changer demain mardi. Il sera souvent couvert avec des pluies parfois marquées. Le vent d'ouest va se renforcer. Les températures minimales seront comprises entre 3 et 10 degrés. Les maximales vont baisser, 8 à 12 sur la moitié nord, 10 à 21 sur le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.